Les séminaires du Collège de France.
Bonjour, merci d'être venu ici par cette journée blême et froide de décembre. Vous êtes venu vous réchauffer et nous avons le grand plaisir aujourd'hui donc d'écouter Sophie Bava et Lucine Endelstein. Donc Sophie Bava est chargée de recherche à l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, dans le laboratoire du LPED, laboratoire population et développement à Marseille. Mais elle est surtout l'animatrice d'un LMI, d'un laboratoire mixte international, c'est comme ça que ça s'appelle à l'IRD. Et ce laboratoire s'appelle Movida, mobilité, voyage, innovation et dynamique méditerranéenne et subsaharienne. Elle se définit comme socio-anthropologue. Elle a passé sa thèse à l'EHESS sur la mobilité des mourides sénégalais, c'est bien ça. Et la mobilité religieuse, ça inclut les pèlerinages, ça inclut les migrations des spécialistes du religieux, des ministres du culte, ça inclut l'émigration des personnes. Et son thème, ce que j'ai repéré comme thème intéressant, et ça définit son approche anthropologique, c'est le transnationalisme par le bas, hein, c'est bien ça. Donc la façon dont circulent, se rapprochent les migrants, et notamment elle a étudié la migration de la mobilité religieuse au Sénégal, mais surtout au Maroc, qui est un pays de transit migratoire très important. Et ce qui l'intéresse, c'est comment interagissent au fond le spirituel et le matériel dans tous ces processus. On lui doit, avec d'autres collègues, dont Sébastien Fatt, Sébastien Roux, c'est ça. Mais je crois que Sébastien Fatt était également dans l'entreprise. Donc le lieu va ouvrir la mer. Voilà, et qui est un très beau livre, paru il y a 2 ans, quelque chose comme ça. Alors, Lucine Endelstein, elle appartient au LIST, qui est un laboratoire de sociologie et d'anthropologie important. C'est à Aix-Marseille, c'est bien ça? À Toulouse. Laboratoire interdisciplinaire, société, territoire. Vous êtes, Lucine, agrégée de géographie, vous êtes aussi chargée de recherche, mais au CNRS, pas à l'IRD. Et votre thèse, en 2008, a été faite à Migrinter, qui est un grand centre de géographie des migrations en France, sous la direction de 2 collègues que je connais bien. Cette thèse portait sur le renouveau du judaïsme dans l'habitat du 19e arrondissement. Et vous n'êtes pas seulement intéressé à la mobilité et au renouveau du judaïsme dans les villes, vous avez aussi étudié, vous avez réagi rapidement les effets de la pandémie, de Covid, les effets de la pandémie sur les solidarités. Et le livre que vous avez co-dirigé aux éditions du Bord de l'eau s'appelle « Effets secondaires, vivre au temps du Covid-19 » et il est paru en 2022. Donc je suis très heureux de vous donner la parole tour à tour. Sophie, c'est à vous.
Voilà. Bonjour à toutes et à toutes. Je remercie M. Jean de m'accueillir dans ce bel amphithéâtre. Et effectivement, on va essayer de vous amener un petit peu de soleil du sud hein, quand même, mais aussi des religions qu'on a croisées sur les routes de la migration. Comme le disait François, je suis sociologue des migrations et anthropologue des religions. Alors j'ai une double formation, j'ai fait la sociologie des migrations et l'anthropologie religieuse. Et c'est sur mes premiers terrains de thèse, effectivement, où j'ai travaillé sur la migration des Sénégalais mourides, donc appartenaient à une confrérie musulmane soufie, la Mouridia. J'ai travaillé sur ces migrants en France et sur les constructions religieuses en migration. Et c'est là que je me suis aperçue finalement que la religion était vivante, qu'elle était contextuelle. Je n'ai pas une grande culture religieuse à la base, comme beaucoup des gens de ma génération. Et il a fallu que je me forme moi aussi, en théologie, à l'islam, et puis plus tard au christianisme. mais très peu, parce qu'il y a des très bons théologiens. Et l'avantage aujourd'hui, c'est qu'on travaille les uns et les autres de mieux en mieux ensemble. Alors, pour revenir sur mon parcours, je me suis rendu compte que la religion était vivante. C'est vrai que les gens l'emportent dans leur bagage, mais qu'on ne le laisse pas à la frontière quand on arrive dans un pays. Et que ce qui m'a toujours intéressée, ça a été de croiser tous ces parcours, les parcours des migrants à leurs itinéraires religieux. Alors, je l'ai fait de manière peut-être un petit peu, au départ, assez nouvelle dans ma thèse, à me dire qu'est-ce que le religieux amène finalement dans la migration, comment on construit sa religion, comment on l'amène dans un espace qui n'est pas le sien. Et puis, je voulais observer finalement cette dynamique religieuse, ce marché qui allait se construire sur les routes de la migration. Et petit à petit, je me suis rendu compte que les personnes qui arrivaient pouvaient investir des espaces religieux qui existaient déjà, mais d'un autre côté, aller aussi construire leurs propres espaces religieux. Alors, pour travailler sur ces questions-là, j'ai une approche des religions, des circulations, on va dire, de la migration par le bas, l'approche à l'intarius, des circulations, comme disait François, c'est transnationalisme par le bas, parce que je me suis rendu compte très vite que finalement, les migrants devenaient les propres entrepreneurs de leur foi. Qu'on avait tendance, dans les années 90, à voir, à observer la religion par cette transnationalisation par le haut, la manière dont les mouvements religieux amenaient la religion dans différents pays. Et puis, les migrations étaient surtout étudiées dans un espace et dans un autre, c'est-à-dire la manière dont les personnes vivaient en France, s'accommodaient, s'installaient, mais pas la manière dont le religieux se construisait dans la circulation. Ce qui était intéressant avec les Mourides, ce que je me suis aperçue assez rapidement, c'est qu'ils amenaient leur religion, mais ils la transformaient aussi. Ils l'adaptaient à l'espace social et l'espace politique français, mais ils étaient aussi, ils intervenaient aussi sur la manière dont le mouridisme allait se construire aussi dans le pays de départ. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une logique où le religieux arrive avec les gens et avec une surveillance par le haut, mais aussi une manière où les migrants, par leur dynamisme, par leur créativité, vont aussi interroger la hiérarchie religieuse. Alors, de quoi s'agit-il ? Dans cette anthropologie religieuse du mouvement que j'ai peu à peu construit, c'est une anthropologie qui croise la migration à travers les plusieurs registres de mobilité, donc la circulation, l'ancrage, l'installation, à une anthropologie religieuse qui va passer avant tout par la connaissance des religions, de la théologie, des rites, des pratiques et des imaginaires. Il s'agit d'abord de comprendre comment la religion va accompagner, va servir de ressource, de réseau. Parfois, elle est même la base de projets et des itinéraires de migration, si on prend les personnes, les étudiants qui vont se former en religion à l'étranger. Et puis, la place de la religion, je voulais observer la place de la religion dans la construction des processus migratoires. Et peu à peu, ce que je me suis rendu compte, c'est que d'un côté, j'observais cette religion comme ressource. C'était quand même impressionnant quand l'espace des possibles devient de plus en plus petit, l'espace des imaginaires, l'espace du religieux devient de plus en plus fort. Donc on l'observe dans tous les espaces de la migration, cette foi, cette organisation religieuse qui va se mettre en marche dès les premiers temps, dès qu'on arrive, etc. Mais peu à peu, dans mes terrains, ce qui m'a le plus intéressé, enfin, on va dire que ce que j'ai rencontré de nouveau, c'est à quel point la migration allait aussi influencer les théologies, à quel point la migration était aussi un moteur, les mobilités étaient aussi un moteur dans les dynamiques religieuses contemporaines, et que sans les mobilités, on verra un petit peu plus tard, les religions ont du mal à s'oxygéner aussi. Donc j'ai travaillé sur ces migrations entre l'Afrique subsaharienne et l'Europe, enfin la France au départ, donc ce mouridisme, ces migrants de cette confrérie, colporteurs qui circulaient, qui amenaient leur religion, qui construisaient les premiers espaces religieux, d'abord dans des arrière-boutiques. Alors j'ai pas mal travaillé sur Marseille, et puis dans la première arrière-boutique du quartier de Belzunce, c'était d'abord un commerçant séfarade qui leur avait laissé l'arrière-boutique pour installer leur culte, puis après ils ont eu des appartements, c'était beaucoup des hommes au départ. Donc le culte, c'est des hommes qui étaient commerçants, qui s'entraidaient, donc tout l'apport de l'éthos religieux aussi dans la construction du commerce aussi, hein, parce qu'on est soudés, on est en migration, mais on partage une même foi et une même activité économique. Donc tout ça, je l'ai vraiment observé jusqu'à, petit à petit, ils ont eu un appartement, pour faire le Daïra, ça s'appelle l'association religieuse, et puis 15 ans après, une maison Serine Touba, c'est-à-dire une maison spécifique à l'espace Mouride. Qu'est-ce qui s'est passé dans tous ces temps-là? Il s'est passé plusieurs générations, vous allez me dire, mais pas seulement ça. Il y a eu ces transformations par le bas, c'est-à-dire que logiquement, dans la confrérie Mouride, ce sont les chers, ce sont les talibés, donc les disciples, qui se rendent auprès de leurs chers dans la ville sainte de Touba au Sénégal. Mais en migration, avec cet espace de la circulation qui devenait de plus en plus global, ce sont les chers qui sont devenus itinérants. Donc les guides spirituels se sont eux-mêmes déplacés. Donc vous voyez déjà un petit peu ces modifications qui vont se transformer, qui vont transformer aussi la manière de vivre la religion aussi. Donc les chers, à l'intérieur de la confrérie, il va y avoir le ralif va désigner une personne, et c'est une branche aujourd'hui qui suit depuis trois générations les disciples dans la migration. Et puis les fêtes, les organisations religieuses, quand on peut de moins en moins circuler, parce que petit à petit, vous allez voir, vous connaissez, puisque vous suivez les cours, l'arrivée de Schengen et du blocage des frontières. Donc, dans ces blocages de circulation, on va voir que les fêtes religieuses vont aussi se passer à distance, et parfois en même temps, mais à distance. Alors, d'abord avec des cassettes qui circulaient, et puis, ou des vidéos, comment ça s'appelait des vidéos, je ne sais plus comment ça s'appelait. Puis après, finalement, directement par visio, par Internet, les fêtes se font en vis-à-vis. Donc, tout ça pour dire que la religion, la migration a transformé ce paysage religieux mouride, et puis la manière dont les gens ont fait leur culte. Et la grande célébration des Mourides, ça s'appelle le Magal. C'est une grande célébration annuelle qui fêtait le départ de Cheikh Amadou Bamba, du prophète en exil, de leur prophète, pardon, en exil, du fondateur de la confrérie. Et en fait, l'exil, parce que l'exil, c'est le départ des épreuves. Vous voyez petit à petit vers où je vais aller, évidemment, sur ces métaphores, ces allégories qui sont reprises dans la migration. De tous ces textes, de tous ces textes sacrés qui sont en fait des puits sans fond dans lesquels tous les acteurs religieux vont puiser sur les routes d'émigration des images, des allégories, des exemples, des prophètes en exil, etc., pour des compagnons, etc., pour alimenter finalement une théologie de la migration dont je vous parlerai plus tard. Donc, qu'est-ce que j'observe? C'est que finalement, ces espaces religieux sont de plus en plus globalisés, mais qu'en même temps, il n'y a pas un effritement du religieux. Ce n'est pas parce qu'il y a dispersion dans l'espace des personnes qui vont se déplacer, qui vont migrer, que leur religion va à un moment donné s'éclater. Leur religion, même à un moment donné, va prendre une nouvelle ampleur, va se reconstruire sur les bases de la mobilité, en intégrant la mobilité, en intégrant les métaphores de la mobilité, dont là, en l'occurrence, Cheikh Amadou Bamba, le fondateur, a été exilé parce qu'il a vécu à l'époque coloniale et que c'était une confrérie qui était implantée au Sénégal et qui a lutté aussi de l'intérieur contre les colons pour préserver aussi un système sénégalais. Donc, ce qui a été intéressant, c'est que la célébration qui va être choisie, finalement, qui va devenir le plus importante, c'est la célébration du départ en exil, celle des épreuves. Parce que c'est les migrants qui, à partir des années 70, vont bouger dans tous les pays, qui vont instaurer l'importance de cette fête, le départ en exil de Cheikh Amadou Bamba, comme le début des épreuves, et le début des épreuves comme un accès vers Dieu. Donc, petit à petit, je travaille sur ces questions-là, et puis arrive Schengen, le blocage des frontières, et je commence à travailler sur les routes de la migration. Je commence à suivre les études. Je rencontre au Niger les personnes qui vont... Oh, j'ai oublié, ça j'en étais sûre. Ouais. Du coup, il y avait le plan. Ça vous intéresse? Ouais, et vachement bien le plan, parce que je ne le suivrai pas tout à fait. Voilà, donc ça c'est le plan. Mais avec des jolies images d'une mosquée d'ailleurs à Dakar, oui. Et oui, j'arrive au Niger pour travailler sur ces personnes, sur les migrants qui vont prendre la route. Et qui vont prendre la route, on le sait maintenant, parce qu'on est baigné d'images en permanence de personnes qui meurent dans le désert, qui meurent en mer. C'est devenu quasiment banal. Mais quand j'y étais il y a 20 ans, il y avait quand même ces jeunes. Il y avait déjà Schengen, il y avait ces jeunes qui prenaient la route et qui se retrouvaient coincés à Niamey, qui savaient qu'ils allaient prendre la route. Et donc, il y avait des espaces, des daïras, comme je vous disais, comme ceux de Marseille. Mais là, de fait de fortune, hein, fait un petit peu dans l'espace sahélien avec des bâches, etc. Et donc, vous voyez les épreuves, les images de Cheikh Amadou Bamba, qui est là-bas, qui fait la prière sur la mer, ou d'autres miracles qui sont reportés sur les murs, sur des tableaux. Et donc, dans l'espace même du religieux, sur la route de la migration, on va voir qu'il y a une mise en scène aussi de ces épreuves, de cet exil, parce que l'important aussi pour les acteurs religieux qui sont dans ces espaces, qui vont recevoir ces jeunes qui vont partir, ça va être de renforcer leur foi, ça va être de croire aussi au bénéfice des épreuves aussi, avant de prendre la route. Donc il y a des espaces religieux qui s'organisent aussi sur les routes, et puis, ça c'est d'autres espaces religieux chrétiens aussi dans les camps, à Oujda, on y reviendra après. Et donc sur ces routes-là, je rencontre aussi des étudiants qui partent étudier à El Azhar, et j'essaie de, puisqu'à l'IRD on a une chance folle, c'est qu'on peut aller travailler à l'étranger dans les universités partenaires, et je pars travailler en Égypte, et pour travailler sur les étudiants africains qui reçoivent des bourses pour étudier à l'université à El Azhar. Parce que quand on travaille sur les mobilités, les migrations, il n'y a pas un seul migrant. Derrière le migrant, vous êtes habitué, vous savez, il n'y a pas une seule figure. Il y a celui qu'on voit, aventurier, qui passe, qu'on voit dans les images, le migrant économique. Mais souvent, la même personne, avant, elle a peut-être été étudiante. Elle a peut-être étudié au Caire, elle a peut-être étudié à Tunis, à la Zaïtouna ou à la Karawine au Maroc. Et puis, elle a repris la route ailleurs, sur d'autres espaces. Et puis, des fois, c'est l'inverse qui se passe. On arrive comme migrant dans un pays, comme au Maroc tout à l'heure, je vous montrerai. Et puis, c'est au Maroc qu'on va reprendre ses études et puis qu'on va découvrir sa vocation en migration. Parce que ce qui est assez fabuleux aussi dans le récit religieux, c'est que le méta-récit va accompagner tous les récits reconstruits en migration. Les personnes sur les routes, les personnes qu'on rencontre, qui s'installent, qui sont dans l'ancrage, vont reconstruire leur parcours migratoire à partir de leur histoire religieuse et de leurs convictions. Donc il y a aussi beaucoup de vocations, parce que Dieu devient un compagnon de voyage, comme disait un migrant. Dieu, la religion est toujours présente et Dieu est un compagnon de voyage, évidemment, qu'on retrouve sur les routes. Donc, je m'égare, je pars en Égypte, je travaille sur l'immigration, El Azhar, les étudiants, puis je me rends compte aussi que finalement, derrière ce prestigieux établissement, il y avait pas mal de migrants aussi qui venaient, qui utilisaient les circuits de formation religieuse pour passer par l'Égypte, pour essayer, espérer peut-être faire un troisième cycle ailleurs, et qu'en tout cas, ce qui est important aussi, ce qu'il faut aussi garder en tête, c'est que la migration, c'est vraiment un temps long, un temps souvent de précarité, de fragilité, où on va ancrer sa foi, comme je vous disais, un temps où l'on questionne aussi ce qu'on a appris. C'est un temps où parfois on va aller dans des nouvelles directions. Moi, je dis souvent que c'est un temps qui est négocié entre une religion qu'on a héritée, qui a été comprise, une religion qu'on a héritée de nos aînés, de nos familles, des acteurs religieux qui nous ont accompagnés, à une religion qui va être comprise dans la mobilité, une religion qui est une religion qui va parfois se transformer, parfois en s'éloignant de nos aînés. Alors je dis nous parce que je trouve que c'est plus simple par moment de se mettre ensemble dans cette histoire des migrants. Donc cette histoire de ce nous qui partons avec cet héritage. Et puis finalement, la migration, c'est aussi un petit peu une émancipation. On voit toujours ce côté difficile parce qu'on voit toujours des images de la route, de la difficulté, de la précarité, de l'immobilité, du blocage, des fermetures des frontières, de la sécurité, mais il y a énormément de vie dans la migration. Il y a des mariages, il y a des cérémonies, il y a de l'amour, il se passe tellement de belles choses aussi, que c'est aussi un moment où les personnes quittent leurs aînés, quittent aussi une forme de rigidité dans laquelle ils sont nés pour pouvoir faire de nouvelles expériences. Et donc, en migration, on peut aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs. Dans le cas des chrétiens sur lesquels que j'ai rencontré au Maroc, c'est aussi aller voir ce qui se passe dans des nouvelles églises, etc. C'est aussi parfois fonder son propre mouvement religieux, reprendre ses études, acquérir une formation religieuse, une vocation nouvelle, etc. Et souvent, en plus, on est appelé en migration. On peut devenir un guide aussi, parce que dans les parcours de mobilité, ce qui est aussi très intéressant à voir, dans les acteurs religieux, qu'ils soient musulmans avec lesquels j'ai travaillé, donc ils sont devenus chefs de prière ou guides spirituels. C'est compliqué, guide spirituel, parce que souvent c'est par héritage dans le mouridisme ou dans la Tijaniya, mais bon, globalement, qui accompagnent aussi le culte, que ce soit chez les chrétiens ou chez les musulmans, on voit que la personne qui a un parcours de mobilité assez long, qui a subi, qui a passé des épreuves, etc., va avoir plus de charisme aussi que les autres. La personne qui a un parcours de foi assez classique, finalement, aura peut-être moins d'audience qu'une personne qui a passé la route, qui a fait la route, qui a rencontré la dureté des barrages, des sécurités, des frontières, qui a vu la mort de près, qui a vu mourir beaucoup de gens. Je passais mon livre à François tout à l'heure, le dernier qu'on a fait, dont tu as parlé, « La Dieu va ouvrir la mer », sur les christianismes africains au Maroc, et c'est quand même presque la moitié des personnages qui sont dans ce livre qui sont morts, quand même, donc aujourd'hui. Donc oui, il y a cette difficulté, il y a ceux qui survivent et qui portent avec eux, du coup, une immense foi. Et c'est donc, je reviens au cœur. Vous avez suivi jusque-là? On est à la fin des... On est au début des années 2000, pas loin avant la Révolution. Et ça se fait, ce genre de choses, hein, aujourd'hui, donc bon, bref. Et voilà. Donc c'était encore une époque où... une dictature, hein, c'est toujours, mais ça a changé. Et c'était une époque où travailler en sciences humaines et sociales au Caire, c'était pas très bien vu non plus. Et donc, j'avais demandé à pouvoir rentrer à El Azhar. Ça passait pas très très bien non plus. Mais de fait, puisque je suis anthropologue et que c'est une université islamique la plus ancienne, en fait. Alors, en Tunis, on dit que c'est la Zaytouna. Je ne sais plus dans les dates si El Azhar a été fondé avant la Zaytouna. Mais en tout cas, c'est un lieu de prestige dans la formation en études islamiques dans le monde arabe. Et à l'époque de Nasser, Nasser, en même temps que le panafricanisme, a fait aussi ce qu'on appelle le panislamisme, c'est-à-dire la dawa, et c'est-à-dire d'aller recruter aussi dans toute l'Afrique des étudiants pour apprendre le vrai islam. Parce que bon, l'islam en Afrique, les confréries, tout ça, vous voyez, bon, c'était pas le vrai islam. Donc il fallait un peu remettre un peu de... Je suis au troisième degré. Hein. Il fallait remettre un petit peu des vraies valeurs là-dedans. Donc c'était aussi faire venir des étudiants et donner des bourses pour apprendre la religion. Et alors dans les parcours des Sénégalais qui arrivent comme des Nigériens ou des Maliens ou des... Les gens qui arrivent d'Afrique subsaharienne au Caire. Alors j'ai pas mal travaillé là-dessus, mais il faudra que je sois brève parce que je sais plus où j'en suis dans le temps, comme d'habitude. Mais dans ces parcours-là, il y a énormément de jeunes qui sont déclassés, hein, parce que comme je vous disais, c'est une université prestigieuse. La plupart ont fait des études en franco-arabe ou en sciences islamiques dans leur pays. Ils ont une bourse pour venir étudier à El Azhar, mais en arrivant à El Azhar, ils doivent repasser des tests et en général, on les renvoie à la primaire ou au collège. C'est-à-dire que pour faire une licence à El Azhar, c'était 4 ans, en minima, les gens feront entre 8 et 10 ans. Donc ça veut dire qu'on s'installe quand même assez durablement dans le pays dans lequel on vient étudier. Mais être étudiant, c'est aussi avoir des papiers. Être étudiant, c'est aussi une manière de rester aussi dans un autre pays et d'imaginer peut-être la suite. Donc, le Caire, l'Égypte, l'islam, les Sénégalais se sont organisés là-bas aussi avec leur daïra, donc ils ont refait ces petits espaces religieux, associatifs, ces espaces religieux mourides comme on a vu au Niger, comme on a vu aussi à Marseille, etc. Et pareil, dans un autre espace. Et dans un autre espace, finalement, on va aussi puiser dans d'autres textes, dans d'autres moments du parcours de Cheikh Amadou Bamba, et notamment là dans toutes les pages sur la quête du savoir, etc. Donc vous voyez, les textes, on les utilise dans les parcours de migration, suivant les moments. On va aller puiser ce qui est important pour avoir de l'énergie aussi pour continuer, pour avoir des références, évidemment, qui nous permettent d'avancer. Donc au Caire, je rencontre au Caire aussi, parmi les étudiants d'El Azhar, des chrétiens. C'est étonnant quand même, des chrétiens qui avaient eu des bourses pour venir étudier dans une université islamique. Et avec qui j'ai travaillé. Alors oui, l'anthropologie, ça nous permet de déjouer toujours un peu les contextes. Hein. Je ne peux pas rentrer à Lazare. Bah, je suis rentrée une fois, après on m'a plus laissé rentrer. Bon, je n'avais pas réellement non plus d'autorisation. Et puis, si on commence à essayer d'avoir des autorisations, on travaille avec deux flics derrière, donc c'est au choix des fois. Bon, donc, sans autorisation, j'ai travaillé sur la cité universitaire qui hébergeait les étudiants et dans les espaces, dans les quartiers où logeaient les migrants. Donc, je travaillais chez eux, avec eux, etc. Et j'ai rencontré donc des chrétiens qui avaient obtenu des bourses. Et donc, j'ai commencé à travailler avec eux. Puis, je me suis rendu compte, avoir une bourse, c'est avoir un moyen de partir, dans tous les cas, de partir de chez soi. Et puis... Puis après, une fois qu'on est sur place, on s'inscrit dans d'autres formations, on diversifie son cursus pour essayer d'envisager soit une circulation plus longue dans un autre pays, soit un visa pour ailleurs, etc. Mais quand même, cette question chrétienne, elle m'a intriguée. Puis j'ai commencé à travailler avec ma première étudiante que Lucine connaît, c'est Julie Picard. Et qui a fait sa thèse, du coup, avec moi, sur les questions des migrants africains et des églises au Caire. Et ce phénomène était intéressant, mais le Caire, en même temps, c'est un pays... l'Égypte, pardon, est un pays à grande majorité musulmane, mais où le christianisme est autorisé. Donc, il y a des églises, il y a des espaces religieux, mais bon, c'était intéressant. Ils réinvestissaient les migrants qui arrivaient d'Afrique subsaharienne et d'Afrique de l'Est, réinvestissait des lieux, etc. Bon, c'est tout le travail de Julie. Et ce que je me suis dit à un moment donné, c'est que le Maroc était vraiment un espace sur la route, un pays musulman où il y avait de plus en plus de personnes qui s'installaient et qui étaient bloquées. On va dire qu'ils s'installaient, c'est bien gentil, mais surtout qui étaient bloquées. Et notamment, de plus en plus de personnes qui arrivaient d'Afrique subsaharienne, d'Afrique centrale, et qui étaient chrétiens. Donc j'ai commencé à travailler au Maroc sur ces questions-là, avec peut-être aussi en tête cette idée que travailler sur l'islam en France et le christianisme dans le monde arabe et musulman, peut-être il y avait un effet miroir, peut-être que j'allais aussi, en décalant mon regard aussi, en travaillant sur une autre religion, peut-être aussi déconfessionnaliser mon point de vue, on va dire, ça se dit, on peut inventer des concepts aussi. Déconfessionnaliser mon point de vue, c'est-à-dire sortir à un moment donné, quand on est en France spécialiste des religions, il y a souvent une manière de s'ancrer quand même dans une religion, alors qu'il y a une richesse folle à aller voir ce qui se passe ailleurs. Je suis un peu comme les nouveaux migrants, à découvrir aussi la religion qu'on ne m'a pas donnée dans mon enfance. Donc ouais, j'ai peut-être une envie aussi d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Puis surtout, un peu ce défi de se dire, est-ce que c'est la France, est-ce que c'est le pays, est-ce que c'est la laïcité qui va faire ce qui se passe en France vis-à-vis des migrants musulmans, ces manières à un moment donné de mettre dans le même panier la migration, l'islam, le terrorisme, etc. Tout ce que j'avais rencontré sur l'islam en France, et en même temps je voyais très bien, et je vois toujours, parce que je travaille toujours sur l'islam en France quand même, l'islam africain, c'est que je me rends compte qu'il y a vraiment des constructions religieuses par le bas et des constructions vraiment pacifiste, des constructions entre plusieurs territoires, pacifistes, etc. Et c'est la réalité de l'islam de France, elle est là, elle est là-dedans. Donc aller voir de l'autre côté de la Méditerranée, au Maroc, et voir comment s'installer le christianisme dans un royaume musulman, dont le commandeur des croyants est le commandeur de tous les musulmans, mais après ça change en 2016, vous verrez. Et donc c'était aussi un défi de me dire, est-ce que la religion en contexte, est-ce que les migrants font changer la religion en contexte, mais est-ce que les migrants eux-mêmes, en amenant leur religion, en transformant les paysages religieux, font aussi bouger des lignes dans les paysages politiques? Ça reste quand même intéressant. Et comme je dis souvent, ce qui est passionnant en travaillant sur la question religieuse en migration, c'est qu'on part du plus intime, de la religion dans les cœurs, de la religion qui accompagne, de la religion qui fait vivre toutes ces expériences qui permettent de les ancrer dans un récit et d'avancer, à une géopolitique du soft power en Afrique. Vous allez voir, c'est impressionnant, en travaillant sur la religion, à quel point cette histoire, ces constructions peuvent aboutir à des transformations. Et on a toujours cette impression-là quand on regarde ou quand on lit la presse, que finalement les transformations se font, la géopolitique religieuse se fait par le haut. Et concrètement, ces petites expériences de toutes ces personnes qui circulent, c'est des milliers de gens finalement qui circulent et qui transforment aussi le paysage religieux et qui font aussi bouger les certitudes et qui font bouger aussi la manière dont les sociétés vont aborder le religieux. Alors, si on le prend dans ce sens-là, on se rend compte que finalement, c'est des constructions qui sont longues, qui prennent du temps. On n'est plus face à des gens qui arriveraient avec un message dogmatique en disant « Transformez, allez-y, vous serez nos soldats qui allez transformer la religion dans le pays dans lequel on vous envoie. » La plupart des transformations religieuses qu'on observe, les uns et les autres, elles se font par le bas, par les gens, par les fidèles et par ces constructions religieuses qui prennent du temps. Mais au Maroc, ça a été assez rapide. D'abord, ce qui est assez intéressant... J'ai pas du tout suivi mon plan. Ouais, on va. Donc là, on est au Maroc. Donc on est au Maroc, on est dans des camps qui sont à la frontière, à Oujda. Et ce qui s'est passé au Maroc, en fait, donc un autre temple à Oujda aussi, une église évangéliste, donc un temple de fortune, vous voudrez, comme on voit dans les camps. Et ouais. Donc ça, c'est à Marseille, pardon. Ouais, c'était pas. Et donc, ce qui est intéressant au Maroc, c'est qu'on est dans les années 90. Le Maroc connaît une migration d'étudiants, surtout. D'étudiants, on appelait ça les étudiants. Ils arrivaient d'Afrique subsaharienne, ils s'installaient au Maroc, ils faisaient leurs études, etc. Puis finalement, les étudiants, il y en a quand même de plus en plus. On se rend compte que le Maroc, les églises au Maroc étaient des églises qui étaient nées à l'époque coloniale. Donc on a l'église... catholique au Maroc, donc avec deux évêchés, une à Rabat et une à Tanger, l'église évangélique au Maroc, le EAM, donc une église historique protestante. Donc deux églises historiques dans un paysage religieux où le catholicisme avait accompagné la colonisation. Donc des églises implantées dans les centres-villes, des cathédrales, des temples, etc. Et puis tout ça vide. Quasiment plus personne. Quelques Français qui étaient restés, quelques Espagnols, les expatriés, mais des églises dans les années 80, 90 qui étaient plutôt vides. Au niveau de l'église évangélique au Maroc, le pasteur Samuel Amedro, qui était président à l'époque, me disait qu'il y avait un pasteur qui faisait le tour de toutes les églises. Il y a même des bâtiments qui étaient vendus, enfin voilà, une forme d'abandon aussi finalement d'une religion parce que. Il y avait moins de fidèles. Donc les migrations vont redynamiser ce paysage religieux. Les gens vont arriver, vont s'installer, ils arrivent d'Afrique centrale, ils sont chrétiens, ils vont dans les cathédrales, dans les églises, dans les temples. Ça se remplit, il y a une nouvelle dynamique qui va se créer, qui va dépasser même les acteurs religieux locaux, qui ne comprennent pas précisément ce qui se passe, parce que d'un seul coup, il va falloir même recruter des gens pour faire le culte. Ce n'est pas comme s'il y avait le personnel nécessaire. Pour Samuel Amedro, il disait que c'était comme une bénédiction, finalement, ces migrations au Maroc. Donc les migrants arrivent et redynamisent ces espaces religieux, mais il y a aussi tout un espace qui va se construire avec les églises évangéliques, les églises de réveil, les églises pentecôtistes, et toutes ces petites églises qui arrivent avec les migrants d'Afrique centrale. Et donc c'est là que... Donc c'est la cathédrale de Rabat. Alors c'était une jolie image parce que c'est plus récent, hein, là on est l'année dernière, et on voit dans un même cœur, lors d'un événement, en même temps, des musulmans, des catholiques et des protestants dans la cathédrale, ce qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a 20 ans. Je ne sais plus par où je vais. Donc des petites églises qui vont se construire dans les appartements, on les appelle les églises de maison, parce que, évidemment, elles sont dans des maisons, des appartements. On les appelle aussi les églises informelles. Alors, parce qu'il y aurait d'un côté des églises formelles, dont je vous parlais, ces églises historiques, et de l'autre côté des églises informelles, de fait, celles qui ne sont pas reconnues par le ministère des affaires religieuses au Maroc. Et, ou alors, on les appelle aussi les églises de migrants. Donc, c'est souvent des petits espaces comme ça qui se construisent dans des appartements. Et des fois, les appartements sont habités la journée, et transformé en église le soir ou à d'autres moments. Parfois, il y a juste un rideau qu'on tire entre deux espaces. Donc, dans ces petites églises, vous voyez, donc là, c'est le pasteur jumelle. dans ces petites églises qui vont naître, en fait, on repart des années 90, donc de toutes ces migrations qui arrivent au Maroc, qui redynamisent ces premières églises qui se construisent. Alors, elles vont se construire où ? Dans les quartiers de migration, dans des quartiers très populaires en général, donc pas toujours bien accueillis, comme c'était le cas au Caire aussi, par la population musulmane à côté, qui se disent « mais qu'est-ce qu'ils font dans ces espaces ? Ça chante, ça danse, c'est un christianisme un peu chaud, comme on dit, un christianisme qui danse, qui chante, qui crie, avec beaucoup de joie, avec beaucoup d'émotion. » Et souvent, les voisins vont appeler la police au départ. Donc la police va déloger les appartements, va déloger les gens. Donc c'est ce que nous raconte Jumel. Je vais vous citer un passage qui est assez joli de Jean, qui raconte un petit peu la manière dont ça s'est passé au Maroc. Parce que ce qui est impressionnant dans cette histoire-là, c'est qu'à peine arrivés, les gens construisent leur église. Mais comme à peine arrivés, les musulmans en France créent aussi leur association religieuse et leur daïra. Mais à peine arrivés, ils vont construire aussi leurs églises sans savoir s'ils repartent demain. Et ce qui est impressionnant aussi dans cette temporalité, c'est que quand on installe un culte, on se dit on va installer un pasteur ou un prêtre sur un temps long, mais en migration dans ces espaces-là, du jour au lendemain, le pasteur, comme certains, je vous montrerai, peut prendre la route, peut repartir, peut mourir en mer, peut changer de destination, etc. Donc il y a toute cet espace de blocage qui sont le Maroc, ces espaces de transit, tu disais, mais ces espaces de passage et de blocage, je dirais plus d'une migration qui s'est installée quand même depuis une vingtaine d'années. Il faut voir aussi qu'il y a eu deux phases de régularisation aussi au Maroc, une de 2013 à 2015 et une de 2016 à 2018. Et dans ces deux phases de régularisation du royaume, il y a eu plus de 50 000 personnes qui ont été régularisées. Alors pour quelqu'un comme moi qui croise la sociologie des migrations et l'histoire religieuse et le parcours religieux, pour moi aussi c'était une bénédiction, on va le dire comme ça, parce qu'il y avait ces deux mouvements en même temps. D'un côté, une régularisation, de l'autre côté, ces migrants qui installaient leur église. Et c'était passionnant à quel point ça arrivait vite, ces quartiers dont je vous parlais, où il y avait des dénonciations. Ben, le fait que le roi lance les campagnes de régularisation, donc évidemment, il y a toute une démarche avant du Conseil national des droits de l'homme, des associations de défense des droits des migrants pour porter ce message-là et pour lancer la mise en œuvre de la régularisation, mais dans un contexte où le Maroc faisait aussi face à l'Europe, mais vous suivez les cours de François Héran, donc vous devez connaître la position du Maroc au sein des politiques migratoires européennes. Le Maroc a mis en place sa propre politique migratoire et mis en place aussi des régularisations. Donc dans ce contexte-là, dans les quartiers de migration, finalement, ces migrants étaient de mieux en mieux accueillis, puisqu'il y avait aussi cette volonté du roi de les accueillir mieux. Ça jouait aussi dans l'espace aussi du quotidien des personnes qui se sont un peu intéressées aussi aux gens qui passaient dans leur pays et qui s'y installaient plus durablement. Jusqu'à aujourd'hui, des amitiés, même des mariages parfois, etc. Mais au départ, c'était un petit peu dur. Alors on va écouter Jean, qui a écrit le livre avec nous, qui est arrivé du Congo il y a 25 ans au Maroc, qui a essayé de traverser plusieurs fois et puis qui n'est jamais passé, et qui s'est installé. Alors nous, on l'appelle le pasteur à ciel ouvert, parce qu'en fait, au début, il avait une église plénielle, et puis il s'est rendu compte que c'était quand même dangereux d'avoir des églises. C'était pas simple. Donc en fait, c'est devenu une personne ressource un peu dans le milieu des migrations, de l'accompagnement social, religieux, mais avec beaucoup de galères quand même, avec beaucoup de difficultés de trouver des boulots, etc. Même régularisé, on n'a quand même pas accès à un travail ou à un appartement. Enfin, c'est très compliqué. Tout juste à une assurance santé aussi dernièrement, mais c'est assez compliqué. Alors, c'est un texte qu'on a retravaillé ensemble, vous verrez, mais qui est un joli texte, je trouve. Il dit « C'est naturellement que les catholiques se sont regroupés dans les églises catholiques, les protestants dans la grande église protestante de Rabat. Et c'est normal que ces églises de réveil ont créé aussi leur mouvement ici. Il y a eu aussi des éléments fondateurs comme l'église Temple de Rabat, la première et unique église de maison fondée en 2003, car les frères et sœurs des églises de réveil n'étaient pas en possibilité d'aller prier dans les églises officielles en ville dans la Médina. pour la simple raison qu'ils n'avaient ni papier ni argent pour se déplacer. Donc c'est un petit peu ce contraste que je vous disais, les églises sans ville, dans les centres-villes, les églises historiques issues de la colonisation, et puis les églises de migrants, elles sont dans les quartiers, et puis il faut l'argent pour se déplacer, etc. Donc faire son église aussi dans un quartier, ça a aussi ce sens-là. À cette époque, nous vivions vraiment cachés, alors on s'est arrangé pour se retrouver et prier ensemble. C'est un ensemble de défauts de papier, de sensibilité religieuse, de défauts d'argent et de situation du quartier qui a contribué à faire démarrer la construction de nos églises de maison. Je garde des souvenirs très forts de cette première église au Maroc. Nous avons beaucoup prié. Nous étions vraiment sincères et authentiques. On priait avec nos mots. On priait selon nos difficultés. Et puis, je crois que Dieu nous a exaucés. Car nos prières, aujourd'hui, nous ont permis que l'on puisse avoir des papiers. C'était une utopie et complètement impensable de prier dans ce sens-là, mais on a vite compris que ce serait impossible pour nous de vivre sans papiers au Maroc. À cette époque, il était vital de prier pour avoir des papiers. Il y avait des rafles, on nous ramenait à Oujda régulièrement. Alors le message du pasteur était aussi orienté dans ce sens-là, et nous avons commencé à avoir une autre lecture de certains passages de la Bible. Je me rappelle que nous utilisions certains passages de la Bible pour lutter contre la fatalité. Nous utilisions beaucoup plus le passage de l'Exode qui dit « Ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les reverrez plus jamais ». C'est-à-dire que la souffrance que vous voyez aujourd'hui, vous ne la verrez plus après. C'est un passage de l'Exode que Moïse a reçu devant la mer Rouge, derrière lui c'est Pharaon, et à l'intérieur le peuple qui a peur et qui est dans l'insécurité. Cette image et ce passage nous a beaucoup nourris dans notre foi. Nous savions que tout finirait par arriver, autant les manques de papier que les maladies... J'ai l'impression que le temps y passe et qu'il ne me reste pas beaucoup. Voilà. Encore. Que tout finirait par arriver, que les maladies, les manques de papier finiraient par partir. Ce sont toutes ces prédications et préparations spirituelles qui nous permettaient de tenir et d'alléger nos vies de migrants. De la même manière, l'Église de Réveil exploitait beaucoup plus la figure de Joseph et d'Abraham, etc., etc. Donc vous voyez, on voit à quel point le texte va être retravaillé, où on va puiser, et aujourd'hui, et ça c'était il y a une vingtaine d'années, et il nous permet de comprendre ce que j'ai appelé, moi, la théologie de la migration. Alors, c'est vrai que dans la situation que vivent les migrants, défaut de papier, difficultés juridiques, c'est vrai que les églises et les espaces religieux en général, c'est souvent ce qu'on appelle, dans la sociologie des migrations, des communautés de destin, des communautés imaginées à l'Anderson, mais des communautés de destin aussi où on va se retrouver. C'est un peu les seuls endroits, par moment, où on va retrouver un espace de sociabilité et de liberté possible. Parce que quand je dis église, évidemment, il ne faut pas imaginer le culte du dimanche, quoi. C'est ouvert toute la semaine. C'est des espaces religieux, c'est des espaces sociaux, c'est des endroits où on se rencontre, où on est au chaud, où on échange plein d'informations sur comment reprendre la route, sur quoi manger, qui peut nous aider, à quelle association on peut demander aussi de l'aide, quel papier il faut, etc. C'est ça aussi, ces espaces religieux. C'est des espaces sociaux. Ce qui est à la base, je pense, des espaces religieux aussi. Et au départ de la régularisation, donc en la première phase de régularisation, en 2015, j'assiste à un culte, le culte du pasteur Samuel Amédro dont je vous ai parlé, qui était le président de l'Église évangélique au Maroc, qui va faire un culte d'action de grâce pour remercier Dieu et le roi de la régularisation des migrants. Et j'assiste à l'Église évangélique au Maroc, donc une église historique en centre-ville. Il avait invité tous les pasteurs des églises de maison à ce moment-là, parce qu'il y a une autre étape dont j'ai oublié de vous parler, ça a été la naissance de l'Institut Al-Mouaf Al-Kam, mais bon. Donc, j'assiste à ce culte-là, et quand je l'écoute, je me dis, mais en fait, il y a une théologie de la migration. Elle existe. C'est pas moi qui l'ai inventée, c'est là, c'est sous mes yeux. Vous voyez, finalement, c'est pas dur d'être anthropologue, parce que c'est le terrain qui nous amène nos concepts avec lesquels on n'a pas travaillé. On va les fabriquer, et puis faut pas hésiter à les bouger, à les bouléguer, comme on dit dans le sus, à les transformer un petit peu, ces concepts. Et alors, je vais chercher quand même, parce que cette théologie de la migration, elle m'intrigue. Puis bon, je vois un article d'un théologien catholique. Donc, ça a déjà été évoqué. Mais là, c'était tellement visible. Je vais vous lire un passage de ce culte de la régularisation aussi. Donc, on est en 2015. Donc, voilà. Mais je ne sais pas faire le pasteur non plus, toujours pas. Il dit « Dieu connaît les tranquillos », donc c'est les camps. Il connaît les quartiers de Saada à Fès, il connaît les camps de la gare à Fès, à Oujda, les forêts. Il est allé à la Farge, à Oujda. Donc ici, tous les camps, tous les espaces où sont les migrants. Et là, les migrants crient, applaudissent et disent « Amen ». Il a vu ça à Dieu. Il connaît Kaza, il connaît Takadoum, Gorogou, tous les quartiers d'immigration. Il a entendu les cris de son peuple qui montaient vers lui. Donc la salle fait monter les cris aussi. Les cris de ton peuple, qu'il entende. Il sait même que certains ont été régularisés, ont reçu des papiers au Maroc. Il a vu cela, il a permis cela, il a voulu cela. Mais il connaît aussi les milliers de gens qui ont été déplacés au Maroc, ceux qu'on a refoulés, qu'on a pris à Kourougou, qu'on a amenés dans le sud. Il sait cela parce qu'il a entendu, car il a entendu vos cris, il a entendu vos gémissements, les cris, les prières, et il connaît personnellement chacun d'entre vous et il sait. N'arrête pas de prier, mon frère, ma sœur, fais monter ces gémissements, ces soupirs, fais entendre au Dieu justice, au Dieu colère, contre tout ce qui blesse et abîme l'être humain. Notre Dieu est en colère contre tout ce qui blesse et abîme. Alors, il ne veut pas que son peuple souffre. Il veut la justice, il ne veut pas l'injustice. Dieu veut la justice. Alors il vient chercher Moïse, qui ne se doute de rien. Moïse le fugitif, Moïse l'émigré, Moïse l'aventurier. Et donc il va dire aux gens qui sont dans l'église, il va dire que c'est vous êtes Moïse. Moïse a soif de justice. Dieu vient chercher ce Moïse-là. Dieu vient te chercher, puisque tu as dit que tu étais Moïse. Il est venu te chercher parce qu'il a un plan pour toi. Il a une petite idée dans la tête, il a des rêves dans ton cœur. Est-ce que tu as des projets d'avenir, etc., qui te poussent vers le nord, n'est-ce pas? Tu as des rêves qui te poussent de l'autre côté de la Méditerranée. Dieu connaît ta soif de justice et ses rêves qui te poussent vers l'aventure. Ce sont eux qui te poussent vers le danger, mais est-ce que c'est le plan de Dieu pour toi? L'idée du pasteur Samuel à ce moment-là, ça va être, dans la théologie de la migration, j'ai repéré quatre étapes, c'est-à-dire une théologie qui est celle du passage, celle dans laquelle je vous ai montré aussi au Niger ou dans les espaces au Maroc. C'est celle du passage, c'est une théologie où on va accompagner, c'est un peu du coaching. Il faut renforcer la foi, il faut y aller, quoi. Il faut utiliser tout ce qui est possible. Ça, c'est quand on sait que les gens vont partir et là, on va voir les pasteurs ou les acteurs ou les acteurs religieux musulmans, enfin en tout cas les guides spirituels, les accompagner dans cette logique-là. Et puis il y a cette théologie de l'ancrage, et là on y est avec le pasteur Samuel dans cette théologie où il va dire tu es là au Maroc, mais tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas au Maroc par hasard en fait. Écoute ce Dieu qui t'appelle, est-ce que tu vois ce buisson? Donc il repart, etc. Il t'appelle Moïse, est-ce que tu entends la voix de Dieu? Moïse, approche-toi, la terre où tu te tiens est sacrée. Voyez-vous, mes frères, mes amis, la maison de Dieu est ici, sur cette terre, n'importe où. Cette terre est une terre sacrée. Dieu habite ici, sur cette terre, au Maroc. Pour Dieu, cette terre est sacrée. Tu ne sais pas, mais pour Dieu, il n'y a pas une terre qui soit chrétienne, une qui soit juive, une terre qui soit musulmane. La terre appartient à Dieu. Alors, n'importe où Dieu se trouve, la terre est sacrée. Est-ce que Dieu se trouve ici aujourd'hui? Est-ce que cette terre appartient à Dieu? Alors, cette terre du Maroc est sacrée parce que Dieu est là, etc., etc. Un jour, dit-il, je te donnerai un signe et tu viendras. Dieu t'enverra un signe et tu pourras rendre ton culte librement sur cette terre. Dans cette terre sacrée, tu auras un signe. Quand tu seras libéré, tu viendras ici rendre ton culte librement. Ce qu'il veut leur montrer, c'est aussi que le Maroc est aussi une terre chrétienne. C'est aussi, derrière les acteurs religieux, je disais, derrière les migrants, il y a des constructions. Les migrants amènent aussi avec eux leur religion, la transforment. Mais les acteurs religieux qui interfèrent aussi vont construire aussi un projet religieux derrière. Pour les chrétiens qui sont au Maroc, c'est une bénédiction. Et il y avait deux choix, en fait. Toutes ces églises qui naissaient à ce moment-là, dans les années 90, un peu des églises mercenaires, un peu prophétiques, un peu violentes, des fois anti-islam, il y avait deux choix. Soit on laissait faire ça au Maroc, et puis on arrivait dans un christianisme qui n'aurait pas forcément été accepté, et avec en 2012 110 pasteurs qui ont été expulsés du Maroc par le roi. Donc on était dans ce contexte-là. Soit il fallait créer un encadrement chrétien, et c'est ce que va faire le pasteur Samuel Amedro, Bernard Coyot et l'évêque de Rabat, Vincent Landel à l'époque. Ils vont mettre en place un accompagnement, mais mettre en place un institut. Je n'aurai pas le temps d'y revenir, mais on a écrit plein de choses là-dessus. Et puis l'institut existe toujours. L'institut s'appelle l'Institut Al-Mouafaka. Et ils le font avec l'autorisation du ministre d'Abous, qui leur donne le nom même, Al-Mouafaka, qui veut dire l'accord. Mais il n'y a pas d'accord formel non plus. Ce n'est pas légal. Mais c'est un espace qui a été donné par l'évêché. C'était une ancienne bibliothèque, La Source, et dans lequel il y a un institut de théologie chrétienne, œcuménique, dans lequel on va former des acteurs religieux présents sur le territoire ou qui arrivent d'Afrique pour encadrer le culte dans la migration ou alors se former à l'islam, au christianisme et au judaïsme pour accompagner dans les pays dans lesquels on vient aussi. Voilà. Donc toutes ces formations religieuses sont aussi issues des problématiques de la migration. S'il n'y avait pas eu ces migrants au Maroc, il n'y aurait pas eu ces questionnements, il n'y aurait pas eu ce projet aussi des églises chrétiennes, en tout cas protestantes et catholiques, d'accompagner ce christianisme, de l'encadrer et finalement d'en faire aussi, de le faire accepter aussi dans le paysage religieux local. Parce que dans ce texte-là, dans ce premier culte, mais après dans plein d'autres, c'est aussi montrer que le Maroc est une terre, aussi une terre chrétienne. Et en 2016, c'est-à-dire pas plus d'un an après, le roi Mohamed VI, dans le discours de Marrakech, dira « Je suis le commandeur des croyants de tous les croyants ». Donc vous voyez, on assoit quand même cette logique. Et derrière cette logique des églises, il y a aussi la logique d'un royaume, d'un pays qui est entre l'Europe et l'Afrique, qui rejoint en 2017 l'Union africaine, après 30 ans en dehors de l'Union africaine, et qui a aussi un projet, une reconquête aussi finalement, une réinstallation du Maroc en Afrique. Et dans ce projet, dans ces projets qui accompagnent aussi la dynamique économique du Maroc en Afrique, il y a tout un soft power religieux. Et le Maroc va reprendre sa place entre deux continents, à travers aussi une migration qui s'est installée, reprend sa place et le roi va inviter le pape en 2019 à venir au Maroc. Et la question qui va être traitée va être celle des migrations au Maroc. Donc là, je vais un petit peu vite sur la fin parce que le temps, évidemment, passe. Et je vais conclure pour montrer que cette histoire-là, cette histoire des migrations, cette histoire des mobilités qui accompagne, de cette religion qui accompagne les migrants, c'est une histoire qui peut se lire à plusieurs échelles. Et qu'il ne faut pas hésiter, évidemment, à entremêler ces échelles-là pour comprendre aussi que la religion se fabrique par le bas, que la migration et la mobilité sont intrinsèques aux trois religions du livre, qu'elles sont nécessaires, elles sont nécessaires pour accompagner la migration, mais la migration est nécessaire pour faire vivre ces religions, pour les revitaliser, pour les transformer, pour les faire travailler ensemble finalement aussi dans un contexte comme celui du Maroc ou ce qu'on aimerait des fois un petit peu plus aussi en France, et qu'il y a des espaces religieux qui peuvent naître de ça, des espaces de formation. Donc au Maroc, il y a l'Institut Al-Mouafaka d'un côté et l'Institut de formation des imams qui est né à peu près à la même époque, avec deux visions aussi qui étaient celles aussi d'accompagner le Maroc vers une ouverture aussi à l'Afrique, et le religieux inscrit historiquement dans ce pays a été une des bases de ces transformations-là. Donc la religion dans la migration du plus intime au soft power le plus large se trouve aussi intéressante à étudier, et j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Merci. Et alors, je vous passe le PowerPoint, comme ça, vous verrez tout ça. Parce que ça, c'est l'Institut Al-Mouafaka, Rachid Benzine qui donne les cours. Voilà, la soutenance. L'église évangélique dont je vous parlais, elle est là. Les exils, évidemment. Et tous ces pasteurs un peu coach qui font des séminaires. Et voilà. Des jolies images, parce que j'ai oublié de citer, c'est avec Malik Najmi, j'ai travaillé. On a une installation et une exposition, parce que c'est un artiste, et on a travaillé, fait du terrain ensemble. Et voilà, on est à la fin.
Merci Sophie. Alors, je ne sais pas comment vous réagissez à ça. Moi, j'ai découvert plein de choses. J'ignorais à peu près tout de tout ce que vous venez de raconter. Donc puis en même temps, on est saisi par cette anthropologie d'observation participante, empathique, de contact qui est proche des gens, et c'est une des manières importantes de pouvoir faire de l'anthropologie, hein. Il n'y a pas uniquement de grandes théories. Merci donc pour tout ça, et maintenant nous allons... en même temps, il y a juste une chose, ce qui m'a beaucoup frappé tout au cours de l'exposé, c'est à quel point les phénomènes que vous décrivez ressemblent tout à fait à ce que l'on connaît du premier christianisme avant la reconnaissance par Constantin et par Théodose. Et peut-être que vous connaissez ce livre de Marie-Françoise Basselez qui s'appelle « Comment le christianisme est devenu catholique, et qui décrit un système de maisonnées, qui décrit une dissémination ainsi vraiment par le bas de religions de maisonnées qui, en fait, suivent les voies de la migration, peut-être aussi les voies du commerce, enfin, on ne sait pas trop. Et c'est comme ça que le christianisme est né, avant, bien avant la reconnaissance officielle. Donc je trouve que cette analogie est très utile. Ce que vous décrivez a dû se passer aussi au premier siècle de notre ère. Bon, Lucine, à vous.
Donc bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup François pour cette invitation. C'est un très grand plaisir et un honneur de venir parler dans ce séminaire. Je vais enchaîner avec la présentation de Sophie pour vous parler des mondes juifs contemporains avec une approche qui est une lecture urbaine, puisque je travaille à l'intersection des recherches sur les migrations, sur les faits religieux et aussi sur sur la ville. Donc je vais essayer de vous montrer ce qu'une telle approche peut nous apprendre pour mieux comprendre, mieux décrire le monde juif contemporain. Le monde juif est souvent perçu comme un monde à part, un monde qui cultiverait sa différence par la reproduction à l'identique de rites et de traditions millénaires. Il est aussi souvent perçu comme un monde qui entretient un entre-soi dans des relations sociales et aussi comme un monde homogène et figé, uniforme, ce qui est pourtant à l'opposé des profonds contrastes qui le traversent et aussi des changements qui sont à l'œuvre depuis toujours et aussi aujourd'hui. Donc c'est un monde pluriel qui parfois est appréhendé comme un peuple, parfois comme une nation, parfois comme une religion, bien que beaucoup de juifs se définissent en dehors de toute pratique religieuse. On le définit aussi comme une culture, comme une diaspora. Les juifs ont aussi, au cours de l'histoire, souvent été des immigrés. On parle aussi de minorité. Et en fait, la difficulté tient sans doute à ce que toutes ces désignations peuvent être parfois pertinentes et parfois non, et qu'aucune n'est absolument parfaite pour décrire ce qu'est le monde juif. Il y a aujourd'hui, le terme minorité, aujourd'hui, est peut-être pertinent en France. Il existe, il y a à peu près 450 000 personnes, c'est-à-dire moins de 1% de la population. Cela dit, donc l'objet de ce séminaire est de montrer, de décrire la pluralité du monde juif et donc de la décrire à travers son histoire urbaine pour voir justement comment s'articule l'histoire migratoire et aujourd'hui la mondialisation religieuse, donc l'articulation entre ces deux phénomènes qui sont à l'œuvre et qui ont amené tellement de transformations au sein des mondes juifs. Donc je vais m'appuyer beaucoup sur les travaux de collègues historiens et puis je vais aussi apporter des travaux que j'ai réalisés, donc soit il y a maintenant une vingtaine d'années ou plus récemment, pour vous décrire cette diversité avec donc deux fils directeurs. Donc je l'ai déjà mentionné, les deux fils directeurs en fait qui sont vraiment centraux dans tous mes travaux, c'est la diversité au sein des mondes juifs, c'est-à-dire la diversité sociale, religieuse, mais aussi en termes d'origine géographique. Et puis une autre chose, et c'est aussi ce que l'approche urbaine va nous aider à comprendre, c'est de voir quelles sont les spécificités du monde juif, mais aussi quels sont des éléments départicularisants. Qu'est-ce qui est spécifique, qu'est-ce qui est identique à d'autres groupes. Et cela permet peut-être de comprendre un peu mieux cette place qu'on attribue au monde juif, souvent peut-être comme étant trop particulière. Donc j'aurai une approche chronologique avec une première période de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 50, avec les premières vagues d'immigration, puis des années 50 aux années 70, l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, Et enfin, des années 80 à aujourd'hui, bon, c'est une large période, c'est arbitraire, on aurait pu mettre une autre charnière dans les années 2000, mais c'est pour simplifier la présentation. Donc on parlera ici de contexte post-migratoire, et en fait justement de cette articulation entre contexte post-migratoire et mondialisation religieuse, qu'on peut assez bien voir avec une approche urbaine et une approche des mobilités. Alors, voilà, première partie sur la fin du 19e siècle au début des années 50. Donc il s'agit des premières vagues d'immigration, mais la population juive en France est déjà présente depuis très longtemps, puisqu'il existe une présence juive millénaire avec dans la région d'Avignon, par exemple, ceux qu'on appelle les juifs du pape, les juifs d'Alsace et de Lorraine. Et dans le Bordelais, là, il s'agit d'une présence plus récente, c'est-à-dire depuis l'expulsion des juifs et des musulmans d'Espagne en 1492, un assez grand nombre de familles étaient venues trouver refuge dans le sud-ouest de la France. Ensuite, avec l'exode rural et les premières vagues migratoires, les juifs qui habitaient en province ont accompagné l'exode rural avec les autres Français, sont venus travailler à Paris. Et en 1872, il y avait environ 50 000 juifs en France, dont la moitié habitait à Paris. C'est donc à partir de la fin du 19e siècle que des juifs arrivent d'Europe de l'Est et donc vont recomposer une première fois la population juive en France, avec environ 35 000 personnes qui arrivent entre 1880 et 1914. Donc ce sont des conséquences de changements démographiques, politiques, économiques aussi en Europe de l'Est, et une pression démographique qui s'ajoute, donc qui apporte des difficultés économiques et également des politiques antisémites avec des pogroms de plus en plus nombreux. Donc à cette période, un tiers des Juifs de France vient d'Europe de l'Est, puis environ 100 000 personnes arrivent dans les années 20, et environ 25 000 Juifs qui fuient l'Allemagne nazie, bien que la politique d'accueil a été rapidement révisée et que donc la France est simplement devenue un lieu de passage pour les Juifs allemands qui fuyaient le régime de Hitler. Et enfin, dernière vague migratoire de cette période qui est moins connue, c'est celle de Juifs d'Afrique du Nord qui, après avoir combattu dans la Première Guerre mondiale aux côtés d'autres Maghrébins musulmans, un certain nombre d'entre eux sont revenus en tant que travailleurs. Donc après la Première Guerre mondiale, ils arrivent en métropole. Donc à ce sujet, par exemple, le très bon ouvrage de Ethan Katz sur Juifs et musulmans en France, Le poids de la fraternité, entre autres, mentionne cette période. Alors, à cette époque, il y avait déjà à Paris une double dynamique de regroupement et de dispersion dans l'espace urbain, donc depuis le 19e siècle, en fonction des catégories sociales. C'est-à-dire que les familles qui étaient anciennement installées, qui avaient déjà connu une ascension sociale importante, habitaient dans les beaux quartiers de Paris. Elles se définissaient souvent à cette époque comme des familles israélites, c'est-à-dire, là que je mets des guillemets, c'était leur manière de parler, juifs dedans et français dehors, donc selon un modèle qui veut respecter parfaitement le modèle de laïcité française de cette époque, selon lequel la religion est uniquement dans l'espace privé. Donc ces familles, certaines sont très connues et sont devenues très riches et puissantes, notamment les Rothschild, les Pereire. Mais par contre, ces images de familles qui ont réussi et qui habitent les beaux quartiers font écran par rapport à la grande majorité des autres familles juives qui suivent des logiques de dispersion dans Paris, mais aussi par rapport à d'autres quartiers qui, dans l'entre-deux-guerres, sont devenus des quartiers d'immigration, donc accueillant des vagues migratoires que je viens de mentionner. À Paris, par exemple, donc c'est bien sûr le Marais qui devient un espace de référence pour les Juifs qui arrivent à Paris, d'Europe de l'Est, mais aussi d'Afrique du Nord. C'est un quartier qui a un caractère très vite assez religieux, avec la présence de quelques lieux de culte de stricte observance. Belleville est aussi le deuxième quartier qui vient assez vite en tête comme image de quartier d'immigration, donc pas seulement juif, mais aussi juif d'Europe de l'Est. C'est un quartier qui accueille une immigration ouvrière, artisanale, plus politisée, syndicaliste et donc moins religieux que le Marais. C'est le centre politique des juifs de gauche à l'époque. Et dans un quartier donc très cosmopolite. Ensuite, en proche banlieue, des quartiers aussi ont accueilli, alors je ne l'ai pas mentionné, le sentier donc je vais en reparler un peu plus tard, mais aussi la Roquette qui accueille des juifs venant de l'Empire ottoman. Et en proche banlieue, là, ce sont plutôt des juifs d'Europe de l'Est qui vont s'installer à Montreuil, Vincennes, Saint-Mandé, et notamment dans les bidonvilles qui sont à l'époque aux portes de Paris. Donc, sans pouvoir être exhaustif, je vous affiche les ouvrages, quelques ouvrages sur l'insertion urbaine de juifs à Paris à cette époque. Donc l'ouvrage de Nancy Green, Du sentier à la 7e avenue, qui compare le monde de la confection entre Paris et New York. Les juifs dans la banlieue parisienne, de Jean Laloum. Les juifs à Paris, de 1933 à 39, de David Weinberg. Le Bosphore à la Roquette, donc sur les juifs de l'Empire ottoman. Et un ouvrage plus récent, mais qui parle aussi du coup maintenant de l'histoire, sur la rue des Rosiers, donc le quartier du Marais. Alors, ce qui est intéressant sur cette première insertion des Juifs d'Europe, enfin de différentes vagues migratoires dans les espaces parisiens, c'est aussi de faire des comparaisons avec d'autres groupes immigrés et de voir quelles sont les logiques d'insertion qui sont particulières et quelles sont les logiques qui sont départicularisantes, puisqu'il existe des dynamiques d'insertion urbaine qui sont communes à d'autres groupes d'immigrés et qui sont d'ailleurs étudiées depuis très longtemps. Je vous ai inséré à droite le schéma de Burgess, qui est un sociologue de l'école de Chicago, donc de 1920. C'est une école de sociologie qui, en 1920, à Chicago, a travaillé sur le rôle des migrations, de l'immigration de l'époque, sur les transformations de la ville de Chicago, en analysant les différents quartiers. Donc les quartiers donc la petite Sicile, le ghetto juif, le quartier chinois. Donc la question du regroupement des immigrés dans les villes, c'est une question qui est traitée dans la littérature sociologique depuis maintenant un siècle et qui décrit très bien, quel que soit, donc plus largement jusqu'à aujourd'hui, que quels que soient les lieux d'origine des immigrés, quels que soient les lieux d'installation dans les grandes villes, on observe des logiques assez similaires, c'est-à-dire qu'il existe des espaces de primo-installation, c'est des espaces où des immigrés vont s'insérer tout d'abord avec des réseaux, peut-être en s'installant dans des meublés, puis en arrivant à trouver un logement grâce à des réseaux d'interconnaissance. Donc il y a une notion de filière migratoire qui aussi a été développée dans les travaux sur les migrations, donc aussi repris depuis maintenant une trentaine d'années. Donc ce sont des logiques qui sont vraiment pas particulières au monde juif, mais vraiment partagées par l'ensemble des immigrés dans leur arrivée en ville. Donc à titre de comparaison, juste pour vous donner deux exemples sur Paris, les travaux de Judith Raynorn en 2005 ont montré la présence des Italiens dans des quartiers très similaires, notamment dans le nord-est parisien, par rapport à l'insertion des Juifs. Et les travaux de Paul-André Rosenthal, des sentiers invisibles. Donc là, il s'agit d'un travail sur les Aveyronnais et qui montre qu'en fait, à l'époque, enfin là, plutôt à la fin du 19e siècle, au tournant du 20e siècle, les immigrés à Paris étaient aussi les provinciaux qui arrivaient donc des provinces françaises et qui s'installaient dans Paris selon les mêmes logiques, c'est-à-dire aussi, donc c'est encore un autre facteur de regroupement, c'est la spécialisation artisanale. Donc ici, je mentionne la confection, Je vais y revenir. Mais la spécialisation artisanale, c'est aussi un facteur qui guide les modalités d'insertion urbaine des immigrés, quelles que soient leurs origines. Donc, pour revenir sur la confection, il y a aussi souvent des images associées au monde juif sur la confection, etc. C'est une activité aussi où, en général, les immigrés sont surreprésentés dans le monde entier et, quelles que soient, encore une fois, leurs origines. Parce qu'il s'agit d'un métier qu'il est possible de faire sans beaucoup de qualifications, sans parler la langue du pays. Et donc, c'est un secteur d'activité où toujours on retrouve beaucoup d'immigrés. Et à l'époque, en effet, quand les Juifs d'Europe de l'Est se sont installés à Paris, une minorité était déjà qualifiée et a travaillé dans l'industrie du luxe, mais une grande majorité est arrivée sans qualification dans les années 20 et a travaillé à domicile pour les petites entreprises familiales du sentier. Donc là, je vous renvoie aux travaux de Nancy Green que j'ai cités précédemment. Je ne vais pas encore dire ça, donc juste pour... Si. Alors là, il s'agit, puisque je me propose d'articuler ce qui est spécifique au monde juif et ce qui est départicularisant. Il est quand même nécessaire, pour expliquer la localisation les regroupements de populations juives dans les villes, il existe une dynamique particulière qui est l'exigence de la pratique religieuse pour celles et ceux qui sont très observants. C'est-à-dire que la pratique religieuse dans le judaïsme a beaucoup plus d'incidence sur les usages de l'espace que dans d'autres religions. En particulier, l'observance du Shabbat, qui implique de ne pas utiliser de moyens de transport, donc se rendre à pied à la synagogue, se rendre à pied pour voir la famille, les amis, etc. Ça implique de survaloriser la proximité géographique de ses co-religionnaires, de sa famille, des équipements religieux, notamment les lieux de culte. Le fait de manger cachère aussi, donc l'approvisionnement régulier en produits cachères, c'est aussi un facteur qui peut compter, la proximité de magasins cachères. Et les écoles juives, mais ça on y reviendra plus tard, puisque à l'époque il existe une seule école juive dans Paris. Donc, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, la population juive de France est estimée à 320 000 membres, dont un tiers est né en France. Il s'agit d'une population très diversifiée, où les mises à distance sont nombreuses, notamment donc on a le Marais avec des groupes immigrés religieux, des ouvriers laïcs et yiddishophones à Belleville, des judéo-espagnols qui travaillent dans le textile à la Roquette, des classes moyennes dans le 9e arrondissement et des familles dites israélites dans l'ouest parisien. Et donc après la guerre et la déportation de 40 000 juifs parisiens, c'est l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord qui va transformer à nouveau la démographie, la physionomie de la population juive en France. Alors, au lendemain de la guerre, 40 000 Juifs d'Europe centrale arrivent encore, donc avant l'arrivée des Juifs d'Afrique du Nord, arrivent en France. Puis, 240 000 personnes arrivent 10 ans plus tard du Maghreb et d'Égypte. Donc il y a des vagues importantes en 1956 au moment des indépendances et en 1967 avec la guerre des Six Jours. Puis 120 000 à 130 000 arrivent d'Algérie, donc des Juifs arrivent d'Algérie, pendant l'été 62 avec les autres Français. Et la majeure partie appartient à des vieilles familles juives maghrébines. Entre 1945 et 1968, la France devient le pays d'Europe qui compte le plus de juifs, donc environ 500 000 juifs. Bien sûr, on n'a pas de statistiques, donc ce sont des estimations. Hein, tous les chiffres que l'on prend à partir de cette période sont à prendre avec précaution. Alors, ce qui va être déterminant dans l'arrivée de ces juifs d'Afrique du Nord et de leur modalité d'insertion urbaine et dans la société, c'est leur statut juridique. Puisque l'appartenance à la nationalité française, qu'une partie ont, mais pas tous, va impliquer d'avoir des aides à l'installation en métropole, avec notamment la loi du 26 décembre 1961 pour l'installation des rapatriés, donc, dont vont bénéficier les rapatriés d'Algérie. Donc, les Juifs avaient, depuis le décret Crémieux, la nationalité française en Algérie. Mais par contre, parmi les Juifs de Tunisie et du Maroc, tous n'avaient pas la nationalité française. Et donc, les non-nationaux vont vivre un déclassement social plus intense, donc, parmi les Juifs de Tunisie et du Maroc. Donc, il y a différents modes d'insertion urbaine à l'époque, notamment les immigrés tunisiens et marocains vont aller s'installer dans des habitats dégradés à Belleville et dans le 9e arrondissement. Donc, de Belleville et le 9e arrondissement, donc avec aussi à ce moment-là des immigrés musulmans qui arrivent aussi dans les mêmes quartiers. Et les Français, donc, qui bénéficient des mesures d'aide aux rapatriés, vont en partie se regrouper, pas tous évidemment, mais une partie vont se regrouper, donc des classes moyennes vont être installées dans les grands ensembles périphériques qui sont construits à l'époque à la hâte. Donc 30% du logement social est réservé aux rapatriés, dont une partie sont des Juifs. Donc je vous renvoie sur ces questions aux travaux de Jan Skoldius-Jurcher et de, par exemple, Doris Ben-Simon. Il y en a évidemment beaucoup d'autres. Alors, en banlieue, donc je vous projette un ouvrage sur le Belleville des Juifs tunisiens, donc écrit par Patrick Simon et Claude Tapia, hein, qui parle aussi de la mémoire du quartier, de toute cette période d'installation. Et en banlieue, donc, ce sont des communes qui aujourd'hui ont des images de quartiers d'immigration, des quartiers très cosmopolites, comme Sarcelles, Créteil, Épinay-sur-Seine, Garges-lès-Gonesse. Donc, ce sont tous les espaces où beaucoup de Juifs d'Afrique du Nord sont allés s'installer dans un premier temps. Et là, encore une petite référence, le dossier Circulation et immigration des Juifs d'Afrique du Nord en France de la revue Archives juives, paru en 2020, dirigé par Valérie Hassan. Donc, ces migrations vont provoquer un bouleversement du profil démographique, culturel et religieux de la population juive en France, avec des rencontres entre Ashkenaz et Séfarades qui ne vont pas de soi. Notamment, par exemple, l'arrivée dans les lieux de culte, le partage de lieux de culte qui a été nécessaire. Alors, certains lieux de culte, après la guerre, n'étaient quasiment plus ou plus du tout fréquentés. Donc, il y avait des espaces disponibles pour des Juifs qui venaient d'Afrique du Nord. Plus ou moins progressivement, il y a eu aussi donc un changement des rites. Donc, les rites dans les synagogues ne sont pas les mêmes suivant les origines géographiques. Les rites sont souvent, liés aux origines géographiques des fidèles. Et dans certaines synagogues, donc, les rites sont passés de Ashkenaz à Sépharad. Par exemple, dans la synagogue des Tournelles, ici à Paris, qui était donc comme une synagogue construite au XIXe siècle, assez monumentale, et cette synagogue a été attribuée à des Juifs de rite constantinois en 1958. Voilà. Donc, j'arrive maintenant à la troisième partie sur la période depuis les années 1980 jusqu'à aujourd'hui. Donc, on est dans un contexte post-migratoire et de renouveau religieux. Donc, ici, ce qui va, à partir de cette période, ce qui va guider les modalités d'insertion d'une partie de la population juive, ce ne sont plus des logiques d'installation, d'arrivée d'immigrés, on est dans des logiques post-migratoires. Et aussi, c'est le contexte de renouveau religieux dans le contexte de mondialisation aussi religieuse, qui va apporter une nouvelle dynamique au processus de regroupement. Puisque, comme je l'ai expliqué précédemment, pour les personnes qui sont très observantes, la proximité géographique des co-religionnaires et des équipements est importante. Et donc, ce qu'on observe, donc ça, c'est je vais vous parler successivement de ces deux phénomènes. Donc, d'abord, la place des mondes juifs entre sécularisation, renouveau religieux et diversification. Et ensuite, la diffusion et la périphérisation des lieux juifs à Paris et dans sa région. Donc, à partir des années, depuis les années, on va dire depuis les années 50-60, hein, la France et les pays européens sont entrés dans un processus de sécularisation assez accéléré. Et le monde juif, qui fait partie de la société française, est aussi touché, concerné par ce phénomène. Et d'un autre côté, il existe, dans le contexte de mondialisation, surtout depuis les années 90, un phénomène de revitalisation religieuse donc qui fait qu'une minorité de la population devient beaucoup plus active, mais aussi beaucoup plus visible. Donc c'est en partie lié aux migrations. Donc Sophie a parlé des exemples africains. En France, les migrations contribuent aussi à revitaliser et à transformer le paysage religieux en amenant différentes dénominations religieuses, différentes religions, églises. Et les mondes juifs donc, sont aussi concernés par cette dynamique de revitalisation religieuse. Donc ce qui est important, c'est d'avoir en tête ces deux phénomènes conjointement, hein, qui finalement ne sont pas opposés. Et on va voir avec des exemples que, quelque part, ce sont des phénomènes qui marchent ensemble. La revitalisation religieuse peut être une réaction à un contexte de modernisation. Alors, je vous projette ici une enquête réalisée par Dominique Schnapper, Chantal Short-Bord-Benayoun et Freddy Raphaël, réalisée dans les années 2000, un échantillon de personnes qui se sont autodéclarées juives. Donc, c'est toujours très compliqué de produire des chiffres sur le monde juif, puisque, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas de statistiques, donc il faut produire ces chiffres. Sachant qu'on ne peut pas vraiment avoir un échantillon, on ne peut pas construire un échantillon complètement représentatif. Donc, tous les chiffres sont toujours à prendre avec précaution. Mais bon, ils ont quand même le mérite d'exister, de donner une indication, une certaine tendance sur la pratique religieuse déclarée par. Donc, c'est un échantillon quand même de 600 personnes. Au moment de cette enquête. Donc, sur cet échantillon, on a 18% qui se sont déclarés pas du tout pratiquants, 26% peu pratiquants, 21% à peu près assez pratiquants, puis 22% pratiquants et 10% très pratiquants. Ce qui veut dire qu'on a à peu près un cinquième en dehors, complètement dehors de pratiques religieuses. On a un tiers qui se déclare pratiquant. Et puis, c'est intéressant, ce centre un peu mou, qui se dit, bon, peu pratiquant, assez pratiquant, qui représente donc quand même quasiment la moitié, 47% de la population juive. Et ça montre aussi une certaine évolution, c'est-à-dire, c'est ce que le sociologue Herbert Gans appelait la religiosité symbolique, c'est-à-dire, ce sont des personnes qui se servent d'éléments religieux, de certaines pratiques religieuses, moins pour affirmer une croyance que pour ressentir une appartenance. Et c'est donc en ce sens aussi qu'il faut comprendre la présence l'existence de certaines pratiques religieuses qui peuvent avoir aussi une incidence dans certains usages de l'espace. Donc, je vais essayer d'accélérer un peu. Pour expliquer aussi qu'est-ce qui explique, donc, puisqu'on a quand même un tiers des personnes qui se déclarent pratiquantes. Ah oui, j'ai oublié d'écrire que dans l'enquête, un tiers des personnes s'est déclaré plus observante que ses parents. Et ça, c'est vraiment aussi une donnée très intéressante qui montre qu'il existe pour une partie minoritaire, mais quand même assez importante de personnes, un regain de pratique religieuse par rapport à la pratique familiale. Et c'est quelque chose qui est départicularisant pour le monde juif, parce que ça, on observe dans d'autres groupes des recompositions identitaires dans l'immigration qui vont dans le sens d'une pratique religieuse plus affirmée, comme si la religion était un recours, un moyen de retrouver des origines familiales, bien que les formes religieuses soient les formes de pratique et même d'appartenance puissent être décalées par rapport à celles des ancêtres. Il peut s'agir de personnes qui adoptent d'autres pratiques, je vais y revenir. Et c'est un phénomène que l'on observe donc dans d'autres groupes, qui est lié aux recompositions identitaires dans l'immigration, et qui est ensuite accentué dans le contexte de mondialisation religieuse, puisqu'il existe une offre, une circulation de messages d'individus, de croyances, de pratiques, donc une possibilité de se détacher de ces traditions familiales et d'adhérer à de nouvelles croyances et à de nouvelles pratiques. Donc à ce sujet, je vous renvoie aussi aux travaux donc, de Sophie et Stéphania Capone, qui ont écrit en 2010 sur religion et globalisation. Et puis, toujours pour expliquer le renouveau religieux dans les mondes juifs, donc, là encore, un élément départicularisant, puisqu'on voit une émergence de mouvements juifs orthodoxes, surtout depuis les années 80. Et là encore, ce phénomène-là, il doit s'inscrire dans le contexte de mondialisation religieuse et d'émergence de courants rigoristes dans d'autres religions. Un élément, je vais vite parce que je vois le temps passer, je vous renvoie aux travaux que je cite sur la diapo. Donc, un facteur particularisant, c'est aussi les ondes de choc de l'Holocauste, qui ont de différentes manières conduit à des regains de pratiques, au développement de certains groupes. Donc là, par exemple, Jacques Gutwirth, en 2004, a écrit un ouvrage qui s'appelle « La renaissance du hassidisme », qui décrit bien ces phénomènes. Alors, attention, je ne fais pas de raccourci qui serait beaucoup trop simpliste entre les ondes de choc de l'Holocauste et le regain de pratiques religieuses, mais il s'agit d'un des éléments. Et justement, à ce sujet, donc, il y a aussi d'autres ouvrages pour expliquer l'effervescence orthodoxe que l'on observe aujourd'hui. L'ouvrage de Yaakov Loupeau sur la métamorphose ultra-orthodoxe des Juifs du Maroc. Donc là, il décrit des mouvements ultra-orthodoxes ashkénazes, donc d'Europe de l'Est, qui sont allés au Maroc après la guerre pour essayer de redynamiser, puisque le judaïsme d'Europe de l'Est avait été décimé. Certains leaders spirituels sont allés pour essayer de raviver, de trouver de nouveaux fidèles et donc essayer de faire revivre ces mouvements. Les travaux aussi de Laurence Potzelver, qui a beaucoup travaillé sur le nord-est parisien et sur Sarcelles, qui a étudié comment, en France, des juifs originaires d'Afrique du Nord ont adopté des pratiques hassidiques, notamment Lubavitch, c'est un judaïsme qui vient d'Europe de l'Est. Et enfin, je me permets un petit peu d'autopub pour une revue dont j'ai fait une co-direction de dossiers avec des collègues sur... vous trouverez dans Archives des sciences sociales des religions, vous trouverez plusieurs articles de mes collègues qui parlent de ces questions. Alors, quelles sont les conséquences de cette effervescence religieuse? C'est une diversification des courants du judaïsme. Le judaïsme du consistoire de France, il me semble que François Héran en a parlé il y a quelques semaines lors de son dernier séminaire, donc je ne vais pas détailler. Donc il s'agit du consistoire qui organise le judaïsme officiel français depuis Napoléon. Mais dans le contexte de mondialisation, il existe l'émergence de courants qui se définissent en dehors de ce judaïsme consistorial, notamment des courants dits modernistes, le judaïsme libéral et ma sortie, où on trouve notamment des femmes rabbins, qui sont certaines assez médiatisées, et l'émergence aussi de courants, à l'opposé, l'émergence de courants orthodoxes non consistoriaux, qui forment une nébuleuse organisée autour d'autorités religieuses. Certains de ces mouvements, pas tous, sont transnationaux, donc notamment les Lubavitch que je viens d'évoquer tout à l'heure. Et on trouve dans ces mouvements, d'une part, une hégémonie du modèle rabbinique ashkénaze, qui est en lien avec des leaders spirituels en Israël, mais pas seulement, aussi dans d'autres pays, notamment anglo-saxons. Et on y trouve également l'émergence d'une nouvelle orthodoxie séfarade, qui justement est inspirée du modèle ashkénaze. La conséquence de cette diversification, c'est la multiplication des lieux de culte. Je ne vais peut-être pas avoir le temps de faire... je vais quand même en dire deux mots. C'est pour expliquer les cartes qui vont venir après, qui vont vous montrer justement la multiplication des lieux de culte. Ce qu'on observe dans l'espace urbain, justement, donc là, pour revenir à l'approche urbaine du lien entre religion et migration, c'est comment on évolue d'une insertion urbaine qui est vraiment typiquement migratoire à une insertion urbaine qui est liée à la diversification religieuse et donc aussi à des recompositions religieuses, ce qui implique une effervescence et une multiplication des lieux de culte. Donc, par exemple, à Paris, dans le 19e arrondissement, ce qu'on voit tout en haut, c'est l'école Lucien de Hirsch, qui est la plus vieille école juive de France, créée en 1901. En 1931, elle a accueilli un lieu de culte pour des juifs alsaciens, qui étaient immigrés à l'époque, entre guillemets. 1973, accueil d'une association culturelle séfarade dans l'établissement. Puis, à partir des années 90, ces lieux de culte vont sortir de l'école. Donc chacun va créer un lieu de culte. Une nouvelle école va être créée par scission. Il y aura encore un autre lieu de culte qui va être créé par scission. Peut-être que vous connaissez la blague « un juif, deux synagogues ». Bon, là, on a à peu près le même phénomène de scission, de lieux qui se démultiplient, pas forcément parce qu'il y a beaucoup plus de public, mais parce qu'il y a différentes sensibilités, différentes obédiences. Et donc, juste pour vous montrer, ces deux synagogues sont aujourd'hui, dans le 19e arrondissement, assez emblématiques des évolutions contemporaines du côté de l'orthodoxie, de l'orthodoxie juive. À gauche, l'orthodoxie séfarade, dont je parlais tout à l'heure, donc des séfarades, mais qui adoptent une pratique quand même aussi inspirée des mouvements dits haredis, c'est-à-dire orthodoxes en Israël, et donc de toute la mouvance du judaïsme, du judaïsme séfarade, qui adopte aussi des pratiques ashkénazes. Et à droite, donc c'est la synagogue, le très vieil oratoire qui était dans l'école, qui aujourd'hui est un lieu de culte ashkénaze, mais lui aussi avec une pratique religieuse très observante. Alors, dans le temps qui reste, je vous montre très rapidement cette multiplication des lieux de culte qu'on observe. Donc là, vous voyez qu'on part progressivement, on part des quartiers d'immigration. Entre les années 60 et 2000, à gauche, c'est les lieux de culte qui existent à Paris, donc entre 1960 et 2000. Donc on voit une dispersion et aussi une périphérisation des lieux de culte, donc à droite, dans l'agglomération parisienne. Et là, encore, pour... les lieux de culte, évidemment, ne sont pas un indicateur de la. Il ne s'agit pas d'une cartographie de la présence de la population juive. Il s'agit de lieux de culte. Donc, évidemment, en fait, la majeure partie de la population juive, aujourd'hui, s'inscrit dans l'espace parisien, d'abord pour des critères de choix résidentiels qui ne sont pas particularisants. Le niveau socio-économique, la proximité du travail, de l'école, de la famille. Mais pour une partie de ces juifs, notamment ceux qui se définissent et qui pratiquent activement leur religion, la proximité géographique peut avoir de l'importance. Donc en ce sens, la présence de synagogues peut être un indicateur. Ce qu'on voit donc, par exemple dans cette carte qui montre les lieux d'implantation du mouvement Lubavitch, donc c'est un mouvement missionnaire qui cherche à aller se rapprocher des juifs pour les ramener, alors seulement des juifs, il ne s'agit pas d'un mouvement prosélyte envers les non-juifs, mais ils cherchent à ramener un maximum de juifs à la pratique du judaïsme. Ils cherchent à être présents dans un maximum de communes hein, de la région de Paris. On observe donc une périphérisation de ces lieux de culte qui permet justement de voir qu'est-ce qui est particulier, qu'est-ce qui est départicularisant aujourd'hui dans cette géographie du judaïsme à Paris. On voit que aujourd'hui la population juive est concernée, comme les autres franciliens, hein, par la périphérisation des classes moyennes. Mais il y a des phénomènes assez particuliers aussi. D'une part, donc, il y a ce contraste entre cette dispersion géographique, mais aussi certains font le choix de rester dans des quartiers à forte présence juive, par exemple le 19e arrondissement, comme j'ai pu l'étudier, mais aussi à Sarcelles. Donc là, il s'agit d'exceptions, mais disons que pour les personnes qui sont très impliquées dans leur monde hein, religieux, il est important de rester dans un quartier juif, enfin, en tout cas perçu comme quartier juif. On a également des lieux de deuxième installation, de Sarcelles vers donc, ce qui suit des logiques d'ascension sociale d'une partie de la population donc, qui était arrivée d'Afrique du Nord. Donc une partie des Juifs est partie des grands ensembles, de Sarcelles vers Garges et Saint-Brice, de Créteil vers Saint-Maur-des-Fossés, mais aussi on a aujourd'hui de nouveaux lieux de regroupement vers le Valois et Saint-Mandé. Alors, je vais rapidement évoquer le contexte de tension depuis les années 2000, puisque depuis les années 2000, hein, la crainte des agressions antisémites a pu intervenir dans certains choix résidentiels. On a peu de données sur ce phénomène, mais l'enquête de Fourquet-Manternac en 2016, et j'ai pu avoir quelques témoignages lors de ma thèse dans le 19e arrondissement. Et par ailleurs, donc puisqu'il s'agit d'un cours sur les migrations, hein, c'est évidemment impossible de ne pas mentionner les migrations d'une partie des Juifs de France vers Israël donc depuis le tournant du XXIe siècle, puisque environ 56 000 personnes sont parties entre 2000 et 2018. Et là, je vous renvoie aux travaux de mes collègues Yann Skoldos-Urcher, Marie-Antoinette Hilly et William Bartomière qui ont publié un très récent ouvrage sur cette question. Voilà, donc pour terminer, quelques mots pour essayer d'articuler encore une fois ce qui est particulier et ce qui est différent à ce monde juif, et pour vous montrer les ambivalences qui peuvent exister jusqu'au sein des mondes orthodoxes. Donc ici, je vous projette deux photos de commerces cachers qui ont une certification rabbinique orthodoxe, Lubavitch même, il me semble. Donc vous voyez à gauche un restaurant japonais et à droite un restaurant de burgers cachers. Donc parmi ces deux exemples, parmi vraiment une grande diversité hein, de style de restaurant, voilà, ça reproduit vraiment quasiment la diversité qu'on peut trouver des restaurants aujourd'hui dans les grandes villes. Et donc j'aurais juste le temps d'évoquer cette question pour vous dire que à travers la question du commerce cachère, on peut voir justement ces ambivalences et ces paradoxes hein, entre singularité du monde juif, mais aussi finalement des similitudes avec les sociétés dans lesquelles les juifs ont toujours vécu. D'une part, on a quelque chose de donc cette multiplication des surveillances rabbiniques dans le contexte de mondialisation religieuse, d'effervescence, de développement de divers courants orthodoxes hein, que j'ai évoqué tout à l'heure. Comment est-ce que ça se traduit dans le secteur kasher? Eh bien, ça se traduit par justement une concurrence entre les courants orthodoxes, puisque différents rabbins, différents courants souhaitent avoir leur propre mode de surveillance des produits alimentaires, leur propre circuit alimentaire dans le secteur kasher. Et donc, je n'ai pas le temps de vous projeter des cartes, mais quand on voit les cartes et aussi le développement des lieux, des commerces cachers entre 1960 et aujourd'hui, donc c'est assez exponentiel, on voit que cette concurrence, il y a l'existence d'un marché, mais il y a aussi cette compétition à l'intérieur du monde orthodoxe, qui est justement une donnée à prendre en compte et qui montre que ces mondes qu'on voit souvent comme homogènes et très solidaires, bon, sur certains secteurs, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres, hein, il y a plutôt de la concurrence que de la solidarité. Et ensuite, donc sur la question de qu'est-ce qu'ils mangent, eh bien, évidemment, là, on trouve aussi une ambivalence entre des restaurants qui vont respecter des normes alimentaires religieuses. Et là, on s'inscrit encore dans un élément départicularisant, puisque aujourd'hui, on est dans une course assez généralisée aux labels alimentaires, qu'ils soient bio, religieux ou autres. Hein, le fait de vouloir savoir ce qu'on met dans l'assiette, et d'essayer d'avoir des listes très précises et de regarder ce que composent les aliments, c'est aussi justement quelque chose d'assez départicularisant, et qui va alimenter le besoin de surveillance du monde juif qui souhaite manger kasher. Bon, c'est quelque chose d'assez... si vous avez des questions, je pourrais en parler plus, mais là, je ne vais pas avoir le temps de détailler. En tout cas, la question qui se pose, c'est manger kasher et en même temps, plutôt j'ai mis « ou », mais ce serait plutôt manger kasher et en même temps manger comme les autres. C'est un peu ce que montre la présence de ces commerces japonais et des burgers, sachant que en France, les restaurants japonais et les restaurants de burgers sont les styles de restaurants qui ont connu le développement le plus important depuis donc les restaurants japonais depuis les années 2000, et les restaurants de burgers c'est beaucoup plus récent, mais ça montre voilà un désir de rester particulier tout en étant quand même quelque part un peu comme les autres. Donc voilà, j'ai parlé, j'ai juste en conclusion quelques mots pour dire que le judaïsme a toujours été divers, les mondes juifs pas toujours solidaires, et que cette diversité a été accentuée par les différentes vagues migratoires au cours du XXe siècle. Elle a été aussi accentuée par la fragmentation du paysage religieux, et donc une approche par l'espace urbain, par la dimension spatiale et urbaine, permet de voir, de décrire cette articulation entre les phénomènes migratoires et religieux. Et on est donc dans un maintien, entre le maintien de particularisme et de ressemblance avec les contemporains, qui est toujours renouvelé. Et bon, évidemment, c'est difficile de ne pas évoquer l'actualité très récente, hein, qui sans doute bouleverse ces mondes, mais j'anticipe des questions, je n'ai pas d'enquête très récente depuis l'année dernière. Mais il y a besoin d'enquêtes pour savoir justement comment évoluent tous ces mondes dans l'actualité. Je vous remercie.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.